Je vais vous présenter le conférencier de ce soir, Gérard Chalian, écrivain et géostratège. Pour son parcours, il est diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il a un doctorat de troisième cycle, Université Paris 5 Sorbonne. Entre 1980 et 1989, maître de conférence à l'ENA. Entre 1993 et 1999, enseignant à l'École supérieure de guerre à Paris. De 1997 à 2000, directeur du Centre européen d'études des conflits, fondation pour les études de défense. Depuis 1984, il est conseiller auprès du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Il est spécialiste du terrorisme. Depuis plus de 20 ans, dans plus de 60 pays, il observe les mouvements de guérilla et conflits armés. Pour sa bibliographie, Gérard Chalian a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il est l'auteur de plus de 35 ouvrages, dont « Stratégie de la guérilla » aux éditions Payot 1994, « Anthologie mondiale de la stratégie, des origines au nucléaire » aux éditions Lafon 2001, « L'arme du terrorisme » aux éditions Audibert 2002, « America is back, les nouveaux Césars du Pentagone » avec Arnaud Blin aux éditions Bayard 2003. Je vais lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat de 20 minutes avec le public. Merci.
Le phénomène terroriste est un phénomène très souvent obscurci par la propagande des États qui mettent derrière le vocable de terrorisme un peu tout usage illégitime de la violence. Par exemple, des guérillas comme celle des Tamouls ou celle naguère des Kurdes de Turquie, qui étaient indiscutablement des guérillas, c'est-à-dire avec prise de possession d'une partie de territoire, avec des actions armées sur un terrain et non pas du tout uniquement des attentats, sont qualifiés de terroristes parce que c'est un label négatif. Rappelons, par parenthèse, que le terme de terreur provient de la Révolution française, 1793-1794, et que, en somme, l'usage du terrorisme, c'est d'abord celle de la terreur d'État. Terreur d'État qui a été exercée au cours des trois dernières décennies, par exemple, et je cite des exemples qui ne prêtent pas à controverse, par le gouvernement guatémaltèque dans les années 60, par les escadrons de la mort brésiliens dans les années 70, etc. La plupart du temps, d'ailleurs, quand il y a guérilla, je ne parle même pas de terrorisme, il y a en général, en réponse, un terrorisme d'État dans la mesure où ce type de violence ne peut pas se combattre uniquement par des méthodes classiques. Je passe également sur qu'est-ce que ça représente sur le plan historique, parce que ça nous entraînerait très loin. Enfin, quelques mots tout de même. Quand on lit un livre sur le terrorisme, enfin, je parle de quelque chose de sérieux, en général, on remonte au tyrannicide. Le tyrannicide serait un acte de terrorisme. Je pense que c'est tout à fait discutable, ça dépend. Est-ce que l'assassinat de César, c'est du tyrannicide, c'est-à-dire de l'assassinat politique, ou est-ce qu'il faut absolument lui attribuer le caractère de terrorisme? Qui est-ce que ça visait à terroriser? Donc à chaque fois qu'il y a utilisation d'un mot, je crois que le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut suggérer en collant ce terme sur une action. Est-ce que c'est emprunt d'une tentative de propagande ou est-ce qu'effectivement c'est une désignation à peu près scientifique? D'autre part, j'ajoute que, en tant que phénomène, ce qu'on appelle le terrorisme, et maintenant je vais commencer à parler du terrorisme tel qu'on le comprend, c'est-à-dire l'action de petits groupes utilisant le terrorisme de façon, je dirais, comme seul moyen de lutte, comme seul moyen de guerre, sans guérilla, sans autre manifestation d'organisation. Le terrorisme n'est ni de gauche, ni de droite. Dans l'histoire récente, c'est-à-dire en remontant aux populistes russes, on voit que ça a été un moyen, vers 1880, de lutter contre le tsarisme et contre l'absence complète contre l'autocratie, que c'était d'ailleurs, ainsi que le disaient les narodniks, c'est-à-dire les populistes, l'unique moyen d'expression, puisqu'il n'y en avait pas d'autre en société non démocratique. Je signale, en passant, que ce sont les populistes russes qui avaient protesté lors de l'assassinat du président américain McKinley en disant « on n'assassine pas un président dans un pays démocratique, il y a d'autres moyens d'exprimer son point de vue ou son mécontentement ». Nous sommes aujourd'hui très loin de ce type de considération. La violence s'exprime de façon plus tranchée. Entre-temps, on a eu les anarchistes, on a eu, après cela, l'utilisation du terrorisme par les fascismes et autres. Et puis, d'une façon générale, après la Seconde Guerre mondiale, ont été essentiellement labellés terroristes des mouvements qui, en fait, étaient des mouvements de libération qui s'exprimaient par la guerre de guérilla. Guerre de guérilla qui pouvait, bien sûr, se servir d'actes à caractère terroriste, hein, je dis bien actes à caractère terroriste, pour essayer d'enlever au terme de terrorisme sa connotation morale, parce que je ne vois pas pourquoi ce type d'action serait immoral alors que toutes les autres actions violentes seraient morales par définition, bien qu'elles soient illégitimes, mais ce n'est pas la seule. Donc, les guérillas utilisent aussi en tant que détonateurs, en tant qu'accélérateurs, parfois en tant que technique particulière qu'utilise une section particulière de leurs membres, le terrorisme pour marquer d'abord leur présence, pour montrer qu'on peut pénétrer dans la citadelle même de l'adversaire, c'est-à-dire en ville, et puis, d'une façon générale, pour faire de la propagande, parce qu'effectivement, comme disait le vieux Aron, on peut qualifier de terroriste une action dont les effets psychologiques dépassent largement les effets physiques. C'est une bonne définition, ce n'est pas la seule. D'ailleurs, il n'y en a aucune de satisfaisante. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les retours en arrière, je dirais que si le terrorisme s'est terrorisé, on a peu fait de plus pour terroriser, en dehors des régimes de type totalitaire, on a peu fait pour terroriser davantage que les bombardements sur Coventry, les bombardements sur Dresde, les bombardements sur Tokyo, qui ont fait 65 000 morts en une seule nuit, ou ceux de Hiroshima et de Nagasaki. Bien sûr, c'est un état de belligérance. Bien sûr, la légitimité de l'État n'est pas en cause. Il n'empêche que ces opérations étaient, du côté allemand comme du côté américain ou britannique, des opérations destinées à terroriser, à répandre la peur chez l'adversaire afin de lui faire craquer le moral. Donc, venons-en à aujourd'hui, c'est-à-dire à 1968. Pourquoi est-ce que je dis 1968 ? Parce que le terrorisme contemporain commence en 1968 avec deux matrices, l'une en Amérique latine avec les Tupamaros et l'autre au Moyen-Orient avec les Palestiniens. Pourquoi à ce moment-là et quelle signification est-ce que cela a ? Du côté latino-américain, on a tiré la leçon, ou on croit avoir tiré la leçon, de l'échec d'Ernesto Che Guevara l'année précédente, 1967, en Bolivie, où la théorie dite du FOCO, illustrée par certains en Espagne, je veux dire plus exactement dans le monde hispanique ou en France, celle de l'idée d'un foyer insurrectionnel n'ayant pas besoin de préparation politique pour passer à l'action et entraîner les masses, s'est effondrée partout, puisque sur la douzaine de guérillas qui ont commencé entre le succès de la révolution cubaine en 1959 et 1967, aucune n'a survécu, sauf la Colombie qui datait d'avant. Donc le FOCO n'a pas marché et aussi bien Carlos Marighella, le Brésilien, que les Uruguayens appelés Tupamaros ont dit « bon, nous allons faire de la guérilla urbaine », un terme chic qui signifie « faire des actions à caractère terroriste en ville ». Dans le cas des Tupamaros, dont je ne vais pas vous raconter l'itinéraire, après quelques actions réussies pendant un an ou deux, ce qu'ils vont réussir dans un État qui était démocratique, en termes latino-américains, ils vont essentiellement réussir à provoquer la montée au pouvoir des militaires pour 12 ans de dictature militaire. Mais, entre-temps, ils vont être imités. Ils vont être imités en Allemagne, avec la Rote Armee Fraktion, mieux connue sous le nom de la bande Abadère. Ils vont être imités en Italie par les Brigades Rouges, en France par Action Directe, en Belgique par les cellules communistes combattantes de Belgique, au Canada par le FLQ, Front de Libération du Québec, aux États-Unis par les Weathermen et la Symbionese Army. Tous ces groupes de type idéologique partent des mêmes prémices que les Tupamaros. L'État n'est pas démocratique. Comment le prouver aux masses afin qu'elles nous suivent? On passe à l'action armée. La répression va montrer par sa violence à quel point l'État est fasciste et les masses vont nous suivre. Avec cette remarquable analyse, on a une collection d'échecs partout et un effondrement en une dizaine d'années de l'ensemble de ces mouvements dont le résultat le plus net, à peu près partout, aura été un renforcement des législations répressives dans les États démocratiques. L'autre branche, c'est différent, l'autre branche est porteuse d'un avenir infiniment plus fertile. Pourquoi est-ce que George Habash, le dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine, entame en juillet 1968 une action à caractère terroriste, c'est-à-dire le détournement surprise d'un avion de la compagnie israélienne El Al, parce que les actions de commandos lancées jusque-là en 1967, 68 et même avant d'ailleurs la guerre de 67 n'ont pas d'écho et je dirais même davantage n'ont pas beaucoup de succès. D'un seul coup, le détournement va créer ce que j'ai nommé à l'époque le terrorisme publicitaire. Les Palestiniens vont être à la une et le monde occidental va découvrir que le noyau du conflit israélo-arabe, c'est avant tout le conflit israélo-palestinien. Il est intéressant de noter que dans les deux cas, dans le cas des latino-américains, comme dans le cas des Palestiniens, l'utilisation des actions à caractère terroriste est un substitut à une guérilla que ni les uns ni les autres n'ont la capacité de mener. J'ajoute, ça va être le cas de tous les mouvements depuis. Si certains mouvements très connus aujourd'hui utilisent les techniques du terrorisme, c'est qu'en général, elles ne peuvent pas faire davantage que cela. Si la guérilla était l'arme du faible, le terrorisme est l'arme du plus faible encore. Et j'ajouterais d'une façon générale que si certains se plaisent à dire que les États démocratiques sont vulnérables, on pourrait inverser cette façon de juger de la situation en disant que c'est parce que les États démocratiques occidentaux, bien sûr, sont si forts qu'il n'est pas possible de les attaquer autrement que par cette technique-là, vu qu'on ne peut ni faire une guerre frontale, ni faire de guérilla. C'est la seule technique pour passer à la violence contre les États-Unis ou contre les États européens, c'est le terrorisme, il n'y en a pas d'autre. C'est donc pourquoi elle est utilisée. Donc, nous avons ce démarrage avec les Palestiniens, ce terrorisme publicitaire va se continuer, notamment par beaucoup de détournements d'avions. Puis évidemment, lorsque le détournement d'avions va finir par devenir une technique à laquelle la contre-insurrection s'est adaptée, on va avoir le zénith du terrorisme publicitaire en 1972 avec la prise d'otages des athlètes israéliens. Alors là, il faut savoir ce que l'on recherche. Si l'on recherche, c'est se faire une publicité positive, il eût été plus sage, au lieu de demander à Mme Golda Meir de relâcher 200 prisonniers palestiniens, ce qu'elle ne pouvait en aucun cas consentir, pour la bonne raison qu'aucun État ne peut consentir à ce type de chantage, parce qu'à ce moment-là, où est-ce qu'on s'arrête ? Il aurait été préférable de demander 10 minutes de télévision et de présenter un jeune homme ou une jeune femme parlant un anglais correct et qui aurait été désigné pour expliquer que les Palestiniens aussi aimeraient bien retourner comme Exodus chez eux. Ce n'est pas ce qui a été choisi. On a opté pour la solution forte, c'est-à-dire celle qui ne pouvait que déboucher sur le choc meurtrier. Et finalement, ceux du commando sont morts, les athlètes aussi, et d'une façon générale, l'action a été ressentie, du moins chez les Occidentaux, comme négative. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être ressentie ailleurs comme positive et porteuse d'héroïsme, etc. Enfin, il faut savoir ce qu'on cherche. Je vais moins m'occuper, à titre personnel, de ce qui est supposé être moral ou pas, mais essentiellement de l'aspect technique et en même temps de ses résultats, c'est-à-dire le résultat politique. Car en fin de compte, le résultat politique, c'est en principe ce qui est visé. Après quelques années donc de terrorisme publicitaire, on voit qu'il y a l'immixtion d'un certain nombre d'États au cours des années 70, vers 73, 14, 15 et au-delà, dans les années 80. On a l'immixtion de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, ces trois États tout particulièrement, qui vont utiliser certains des groupes entre autres palestiniens, mais pas seulement palestiniens, dans le cadre d'un terrorisme de coercition diplomatique. Ça va concerner les États-Unis, ça va concerner la Grande-Bretagne, ça va concerner aussi la France, à divers égards. Et puis, à partir de 1979, l'Iran, qui vient d'avoir sa révolution islamiste, va également commencer d'utiliser le terrorisme. Et à partir de là, peu à peu, il va y avoir une sorte de généralisation, de nombreux groupes vont éclore, certains disparaître, et d'autres, surtout, à partir de 1980, vont se retrouver en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent en Afghanistan ? Parce que, à Noël de l'année précédente, les Soviétiques, de façon inattendue, se sont rendus maîtres du pays par une opération aérienne et ils sont intervenus, en somme, pour la première fois dans un pays hors du pacte de Varsovie. Pour les Américains, c'est une aubaine. Enfin, ils vont pouvoir peut-être rendre aux Soviétiques la monnaie de la pièce qu'ils ont durement payée au Vietnam entre 1965 et 1973, car le syndrome vietnamien va perdurer jusqu'à une date bien ultérieure. Je dirais qu'il ne s'effacera véritablement qu'avec la victoire de M. Bush, le papa, en 1991, lorsqu'il va dire « America is back ». Alors, en 1980, on a donc trois États qui vont jouer un rôle fondamental dans la montée de l'islamisme. D'abord, les États-Unis, parce que d'emblée, la CIA va choisir d'aider parmi les six mouvements principaux, dont trois sont royalistes et trois autres sont islamistes, dont deux relativement modérés et un troisième nettement plus dur, celui de Gulbuddin Ekmaktar. La CIA choisit d'aider Gulbuddin Ekmaktar de façon quasi exclusive. Donc, il y a là une responsabilité qui, d'ailleurs, dans l'avenir, se mesurera de façon inattendue par un effet de boomerang à partir du début des années 90 et qui va éclater le 11 septembre de façon plus visible. Le deuxième État qui va considérablement contribuer à la montée de l'islamisme, et pas d'ailleurs depuis 1980 seulement, mais déjà avant, mais de façon peut-être moins systématique. Enfin, je dirais depuis trois bonnes décennies, c'est l'Arabie saoudite et le wahhabisme qui, du Nigeria jusqu'à Mindanao, au sud des Philippines, n'a pas cessé de répandre l'islamisme qui sera le terreau de ceux qui s'engageront dans l'islamisme radical au gré des djihads futurs, le premier d'entre eux étant celui de l'Afghanistan. Et le troisième État qui va tirer avantage de sa situation géographique, c'est-à-dire la proximité du terrain, le Pakistan, lui-même d'ailleurs avec des proclamations de type islamiste, avec des médressas de plus en plus nombreuses, et qui vont profiter de l'Afghanistan en se disant que s'ils parviennent à avoir en Afghanistan par la suite un État ami, ils pourront ainsi gagner ce qu'ils appellent une profondeur stratégique pour rééquilibrer un peu leur infériorité militaire par rapport à l'Inde, toujours sur le conflit du Cachemire qui perdure depuis 1947, c'est-à-dire depuis la création même du Pakistan et de la partition. Les Moudjahides qui se rendent en Afghanistan ne sont pas toujours des combattants. En fait, les Afghans faisaient ça très bien tout seuls. C'est une culture de la guerre à laquelle participaient avec un certain plaisir la plupart des hommes de l'âge de porter des armes jusqu'à l'âge où on ne peut plus les porter, puisqu'il n'y a pas d'âge dans les sociétés guerrières. Et par contre, il y avait formation, d'abord au Pakistan, formation d'ailleurs intellectuelle, c'est-à-dire religieuse, dans les médressas, puis ensuite formation militaire à l'intérieur des camps afghans. Et puis, lorsque la guerre se termine, lorsque les soviétiques s'en vont, c'est-à-dire 88-89, que la guerre civile va commencer, guerre civile dans laquelle, en général, les islamistes étrangers ne participent pas, il va y avoir retour. Ceux qui retournent d'ailleurs en premier, ce sont les Algériens, qui vont tenter, à partir de 91, de s'imposer. C'est le djihad majeur qui échouera, après avoir provoqué un nombre important de victimes, rien n'étant plus cruel que les guerres civiles, car on ne peut pas parler seulement de terrorisme, c'est une guerre civile qui s'exprime de façon diverse. Et lorsque se termine la guerre d'Afghanistan, il se trouve que nous sommes également au moment où l'expérience gorbatchevienne est au bout de son rouleau. L'expérience gorbatchevienne, celle de mettre la glasnost avant la perestroïka, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'ont fait les Chinois, qui, eux, ont restructuré économiquement sans lâcher quoi que ce soit sur la démocratisation, ce qui peut-être viendra un jour, comme ça a été le cas en Corée du Sud. Dans le cas de la Russie, on a débouché sur le chaos pendant 10 ans, et il y a eu un effondrement du système communiste européen. Système communiste européen qui s'effondre et qui va complètement modifier l'architecture du monde, ce dont, d'ailleurs, ne vont prendre conscience la plupart des dirigeants politiques, au fond, réellement, qu'à la faveur de la crise provoquée par la guerre ou pas en Irak récemment. Soudain, il y a eu une prise de conscience du fait que l'Amérique était la seule puissance, numéro 1, et qu'il n'y avait non seulement plus de numéro 2, mais ni 3, ni 4, ni 5. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial qu'avait évoqué le président Bush, le père, au lendemain de la guerre du Golfe, subrepticement, s'était mis en place et à la faveur du septembre 2001, s'était bigrement accéléré. En quoi ? Eh bien, premièrement, en ce qui concerne les terrorismes, il y avait eu une multiplication de participations de gens formés en Afghanistan qu'on appelait les Afghans, mais qui pouvaient très bien être Marocains, Maghrébins d'une façon générale, Ouïghours du Xinjiang, Somalis, Yéménis, Saoudiens, etc. etc. Bref, il n'y avait pas. C'était une internationale islamiste, et qui ont participé, le fait est avéré, à la Bosnie, 3000 d'entre eux, à la Tchétchénie, au Cachemire et ailleurs. Par ailleurs, il y a ceux qui sont rentrés au pays et qui ont essayé de faire de la propagande, de l'agitation ou du travail de masse. C'est ça, entre parenthèses, qui est souvent le plus payant à la longue, le travail de masse. Et puis, il y a ceux qui, dans les pays dont ils parlaient la langue, Amérique du Nord, Europe occidentale, ont tissé des liens, créé ce qu'on appelle des cellules dormantes, capables de devenir des cellules actives. Ça s'est vu en 2001, entre autres. Ça s'est vu depuis, mais de façon moins spectaculaire. Entre-temps, comment évolue le monde ? Eh bien, je l'ai dit, c'est la superpuissance américaine qui fait la guerre du Golfe, la première, pour la bonne raison que si l'Union soviétique de Brejnev avait encore survécu, il n'aurait pas pu la faire. Mais cette fois, avec l'effacement de l'URSS, c'était faisable. Pourquoi est-ce que la guerre s'est arrêtée avant qu'elle n'arrive à terme, c'est-à-dire à, selon Schwarzkopf, 2 jours de la fin? Parce que le régime américain, comme celui de l'Arabie saoudite, craignait que la chute de Saddam Hussein, fondée sur l'hégémonie quasiment complète d'une partie des sunnites arabes, ne provoque la montée des 55 à 60% de chiites au pouvoir, ce qui aurait, selon eux, largement avantagé l'adversaire iranien qui, à cette époque-là, était encore, en 1990-91, fortement offensif. L'Arabie saoudite, d'ailleurs, étant à cette époque un excellent allié. Comme vous le savez, 12 ans plus tard, les choses ont changé. L'Iran est plutôt sur la défensive. Et en tout cas, l'Arabie saoudite, au lendemain des événements du 11 septembre 2001, est jugée comme un allié plus qu'ambigu. Donc, il y a un fait que les États-Unis ne vont pas découvrir de façon nette leur service, en tout cas, dans la période Clinton, qui est une période, je le rappelle, d'euphorie économique et boursière, avec un exécutif, au moment de l'affaire Lewinsky, affaibli du point de vue politique. Il va y avoir une Amérique qui va s'enivrer d'elle-même dans la prospérité et qui ne va plus se préoccuper de ce dossier afghan qui, de toute façon, est réglé, puisqu'on a gagné, les Soviétiques non seulement sont partis, mais ils n'existent plus. Et les choses sont en train de se modifier. Au fond, les États qui appartiennent ou qui appartenaient au traité de Varsovie, au pacte de Varsovie, ces États sont en train de devenir, à cette époque-là, candidats pour rentrer dans l'OTAN. Chose impensable une dizaine d'années plus tôt. Pire, ou davantage, des États comme les États baltes, qui faisaient partie de l'Union soviétique, à tort ou à raison, ce n'est pas là mon propos, mais c'est de dire qu'ils faisaient partie de l'Union soviétique, vont se détacher bientôt et se joindre à l'Europe occidentale, enfin au noyau dit de l'Union européenne, etc. Donc ce monde-là se modifie. Et en même temps, il se passe des événements dont les Américains ne mesurent pas l'ampleur. Premièrement, le premier attentat en 1993 du World Trade Center, qui, bien que raté, fait quand même 17 morts, donc c'est pas si raté que ça. Il aurait pu en faire davantage, puisque c'était des camions piégés qui devaient ébranler l'une des tours. Deuxièmement, en 1995, beaucoup plus grave d'une certaine façon, à Khobar Dahran, en Arabie Saoudite, un bon nombre, je crois que c'était 19 ou 20, de soldats américains sont victimes d'attentats, et l'Arabie Saoudite ne permet pas à la CIA d'enquêter sur place pour savoir qui quoi. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, ce qui n'est pas le cas. Il a fallu attendre 1998 pour qu'enfin on mette le doigt sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des islamistes organisés qui ont choisi les États-Unis comme ennemi numéro un et qui ont frappé les ambassades américaines de Dar es Salaam et de Nairobi, provoquant 225 victimes, dont seulement d'ailleurs 12 Américains. Et puis, 18 mois plus tard, c'est l'attentat contre le USS Cole au large d'Aden, Yémen, qui fait encore 17 morts. Et puis, de façon encore plus inattendue, le 11 septembre 2001, qui est, je dirais, le zénith du terrorisme classique et qui frappe de façon inattendue l'Amérique dans sa chair même et provoquant par là, d'ailleurs, une onde de choc considérable puisque tout ce qui se passe aux États-Unis est plus important que ce qui peut se passer en Malaisie ou ailleurs. À partir de là, la réponse des États-Unis, c'est à terrorisme, le contre-terrorisme, eh bien, c'est la guerre. C'est un peu la nouveauté, c'est que il ne s'agit pas du tout de traiter ou de voir. Non, c'est l'assaut direct après avoir fait une campagne diplomatique très large et d'ailleurs fort habile, d'abord à l'égard du Pakistan, de façon à retourner le Pakistan en ne lui donnant pas d'autre choix que d'être avec. Sinon, le fait d'être contre, c'est sa fin, la fin de ce régime, comme la fin d'ailleurs peut-être du Pakistan. Et puis, c'est la guerre, toujours aérienne, puisque les États-Unis mènent essentiellement depuis un bon moment, depuis la guerre du Golfe, des guerres aériennes peu coûteuses en hommes, dans la mesure où les sensibilités se sont beaucoup transformé depuis la fin de la guerre du Vietnam, 1973, où les Américains avaient tout de même perdu 58 000 hommes. Les sensibilités occidentales se sont largement modifiées. Je dirais que c'est même une des choses les plus remarquables de l'époque. Je vais vous citer un exemple qui m'a paru intéressant. C'est que, lors de la guerre du Golfe, donc, il y a, si j'ai bonne mémoire, 157 ou 147 victimes américaines. Et en face, parmi les militaires, nous ne savons pas officiellement combien il y a eu de militaires irakiens tués. Selon le Pentagone, off the record, comme on dit, officieusement, ce serait autour de 100 000. Et alors, il est intéressant de noter qu'en fin de compte, la sensibilité occidentale non seulement n'encaisse pas ses propres pertes, mais n'encaisse même pas les pertes de l'adversaire, puisque jusqu'à la guerre du Vietnam, et ça depuis Marathon, on doublait, quand on ne triplait pas, les pertes de l'adversaire, histoire de montrer à quel point on était performant. Donc là, il y a un changement très intéressant dont il faut prendre note. Et cette guerre aérienne menée entre l'Afghanistan des talibans et l'Amérique ne pouvait évidemment être gagnée que par les États-Unis, puisqu'elle était totalement inégale. En acceptant le conflit, c'est-à-dire en ne livrant pas Ben Laden, le mollah Omar se suicidait sur le plan politique, et les talibans ne comprenaient pas très bien que si on voulait perdurer avec les Américains, il ne fallait pas accepter de combat frontal, mais au contraire essayer au maximum de se diluer et d'attendre l'occupation au sol si possible. C'est intéressant de noter que la seule opération au sol qui se passe dans la nuit d'octobre, je crois du 18 au 19 octobre 2001, avec des commandos spéciaux américains largués pour s'emparer du mollah Omar, est un échec total avec des pertes relativement importantes et un retrait immédiat. Donc, ça montre que la vulnérabilité de l'adversaire, elle n'est qu'au sol. C'est ce que d'ailleurs les événements en Irak, une fois de plus, sont en train de montrer. Le grand espoir d'Al-Qaïda, c'était que, et il l'avait annoncé, c'était que pendant les bombardements, il y ait des régimes qui soient déstabilisés. C'est-à-dire que les populations se soulèvent en manifestation de soutien et que, ici ou là, soit en Arabie Saoudite, soit en Égypte, soit peut-être au Pakistan, l'un de ces régimes soit déstabilisé. Cela ne s'est pas passé. Au fond, ce qu'on constate, c'est qu'en dehors du Pakistan, où il y a effectivement une organisation non négligeable d'islamistes structurés, à peu près partout ailleurs, les polices ont plutôt démantelé et on a affaire à des manifestations spontanées, émotives, certes, mais qui n'ont pas la structure nécessaire pour engager un véritable défi aux autorités armées et police. Donc, là aussi, on a un peu l'impression que c'est un peu la théorie du Foucault, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une capacité pour soulever, entraîner, mobiliser, etc., on a encore davantage, pour l'instant, dans la plupart, en tout cas, des pays musulmans en question où les islamistes ont essayé de travailler, on a davantage des noyaux réduits et non pas de larges masses. En définitive, c'est intéressant de noter qu'au fond, le seul endroit où, en dehors de l'Algérie, il était moins une, puisqu'au fond, c'est de façon illégale que le processus a été arrêté, le seul endroit où les islamistes se sont emparés du pouvoir dans une large mesure, c'est la Turquie, avec un phénomène appelé d'islamistes, entre guillemets, modérés, dont nous verrons très bien jusqu'où va leur modération quand ils disposeront davantage de pouvoir, à moins que les militaires ne parviennent à briser cette coalition et à les atomiser, ce qui n'est pas non plus exclu. Donc, échec de ce côté-là, et à partir du 11 septembre 2001, nous constatons une chose extrêmement nette, c'est que dès le lendemain, M. Paul Wolfowitz désigne l'Irak comme la cible principale. On ne voit d'ailleurs pas, si on n'est pas au courant du dossier, pourquoi, puisque ce n'est pas, pas le régime irakien qui a permis l'opération du 11 septembre. Indiscutablement, ça provenait d'une structure dont la base se trouvait en Afghanistan. Et au fond, malgré les victimes causées, indiscutablement, ça a été pour ce qu'on appelle les faucons du Pentagone, c'est-à-dire pour les civils du Pentagone, une divine surprise qui a permis de faire avancer leur propre stratégie. Quelle stratégie ? Pouvoir, à la faveur du choc créé, profiter d'avancer la stratégie offensive selon laquelle l'Amérique étant désormais la puissance hégémonique, il fallait en tirer le maximum possible de parti, et ceci devait mener un jour ou l'autre à l'investissement de l'Irak. En fait, il n'a jamais été question, et c'est comme ça que la la contre-insurrection est vécue, perçue, je ne dis pas qu'elle est réelle. Et les armes de destruction massive n'ont jamais été le but de la guerre. Jamais il n'a été question de cela, sauf dans les déclarations afin de manipuler une opinion publique qui était traumatisée par la peur et dont on a d'ailleurs joué de la peur très habilement de bout en bout pendant des mois et des mois. Le but, c'était le renversement du régime de Saddam Hussein, que je ne défends pas du tout ici, un régime odieux qui opprimait la majeure partie de son peuple. Mais en tout cas, c'était cela sur le plan politique. Et afin d'être à l'épicentre du Proche-Orient et de peser sur le maillon faible, la Syrie, et ensuite sur l'adversaire principal, l'Iran. C'était cela le but de la guerre. C'est comme ça que la contre-insurrection a été pensée. Et c'est cela qui est en train de se passer sous nos yeux, qui devait en principe, sous le couvert de répandre la démocratie partout dans le Moyen-Orient par un effet d'exemple. Ce que nous constatons, c'est que les libérateurs, même s'ils sont perçus comme libérateurs pendant un bref moment, se transforment alors des nationalismes rapidement en étrangers occupants. Le passage à une autre structure, celle de la création de ce Conseil qui date du 13 juillet, va être aujourd'hui, je dirais, le tournant majeur, puisque nous nous trouvons dans cette affaire contre-insurrectionnelle à un tournant. D'une part, il y a assaut, tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, sur la manipulation dont a été l'objet les opinions publiques et la classe politique, en tout cas en dehors du petit noyau de ceux qui savaient pleinement, et d'autre part, sur le piétinement de la situation militaire en Irak, certes circonscrite essentiellement dans le milieu bassiste et peut-être plus largement que bassiste, en tout cas sunnite arabe, mais au fond, de nombreuses guérillas au cours du XXe siècle n'ont jamais eu une portée dans l'ensemble du pays. Beaucoup sont restées circonscrites. Le vrai problème, ça va être, est-ce que dans les prochains mois, l'intensité des opérations de type subversive va tenir ou pas, ou va être jugulée. C'est un débat qui n'est pas que militaire, il est politique. Et deuxièmement, le problème second va être, est-ce que le Conseil en question va disposer de vrais pouvoirs, est-ce qu'il va se contenter d'écrire une constitution pour l'année prochaine, ou est-ce qu'il va faire le nécessaire avec les structures américaines pour rétablir un minimum de sécurité, je parle de sécurité civile et de conditions de vie. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le portrait général de ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Est-ce qu'on en est à 50 minutes ou pas, là, vous qui suivez les choses? Non, parce que je tiens à être... Bon. Donc, deux ou trois choses encore. Donc le terrorisme aujourd'hui occupe finalement l'espace de la violence. Je voudrais ajouter que c'est une forme de guerre. Il n'est pas plus illégitime, je veux dire, illégitime pas au sens de la légalité, mais il n'est pas plus illégitime que la guérilla. Et je pense qu'il n'y a pas de jugement moral à porter dessus de façon unique. Ou alors, il faut porter un jugement moral aussi sur la guerre et ses conséquences. En ce qui concerne d'autres problèmes, je préfère laisser ça à questions et réponses. D'une façon générale, je pense qu'on a à peu près balayé la question de ce que c'est que les terrorismes, de leur portée, de leur capacité. Je voudrais conclure en disant qu'à mon avis, cependant, ce qu'on appelle le terrorisme de type islamiste peut avoir un effet de nuisance considérable. Je ne pense pas qu'il puisse avoir des effets déstabilisateurs. Je vous remercie de votre attention. beaucoup. C'est gentil.
Je voulais un commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous classez les activités de la CIA en tant qu'activités terroristes au service d'un État démocratique? Comment vous analysez ça? Merci.
Non, je ne classe pas les activités de la CIA comme des activités terroristes, mais des activités contre-terroristes, avec des méthodes qui peuvent parfaitement lui ressembler, avec des méthodes qui peuvent parfaitement ressembler, dans le cas, par exemple, de la liquidation au Yémen d'un des terroristes connus. Donc, dans le domaine de la lutte, les méthodes ressemblent beaucoup, surtout depuis qu'on est revenu à des pratiques anciennes qui, sous Clinton, étaient supposées appartenir au passé.
Vous avez, en début de votre intervention, indiqué que l'action des Tupamaros avait abouti à la crispation et à la prise du pouvoir par les militaires qui ont tenu une dictature pendant 10 ans. Est-ce que vous pourriez esquisser une analyse sur les conséquences que vous voyez pour la démocratie américaine de tous les événements globaux qui se passent maintenant, et notamment de l'ensemble des événements de contre-terrorisme auxquels nous assistons?
Ce qu'on constate déjà, et ce n'est pas du tout indicatif de mes projections, hein, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a restriction des libertés aux États-Unis de façon indiscutable. Je ne parle pas seulement des conditions faites à Guantanamo aux 650 détenus. Non, d'une façon générale, bien des indicateurs montrent que les libertés, je parle au sens américain du terme, hein, se restreignent et que cela aide l'administration Bush et que, indiscutablement, une partie de la population préfère ce qu'elle considère être sa sécurité plutôt que certaines de ses libertés.
Vous n'avez pas abordé le phénomène kamikaze? Et la deuxième, puisque vous travaillez, semble-t-il, au centre de prévision du Quai d'Orsay. Très honnêtement, comment jugez-vous l'action du Quai d'Orsay à travers les ministres et les âges, sachant que pour l'affaire de Lindbergh, que vous n'avez pas raconté, on a plutôt été surpris que le consul de France sur place parle d'attentat quasiment instantanément et que M. François de Rivasseau attende de ne rien dire du tout pour dire que je m'informer. Merci.
Oui. Bon, en ce qui concerne ce que vous appelez les kamikazes, c'est-à-dire les attentats suicides, j'en ai effectivement pas parlé. Les attentats suicides ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai indiqué ailleurs que c'était d'une certaine façon le modèle tamoul qui date il y a une trentaine d'années, car je signale que même si les tamouls n'ont pas fait beaucoup de bruit, puisque les médias se braquent sur certains et pas sur d'autres, les tamouls sont, du point de vue technique, la plus remarquable au sens de l'efficacité des organisations existantes jusqu'au moment où ils se sont mis à discuter au lendemain du 11 septembre 2001 avec le gouvernement sri-lankais, dans la mesure où ils ont compris, avec l'intelligence qui les caractérise, qu'il est temps de passer à autre chose. Les Tamouls, depuis 30 ans, utilisent avec beaucoup d'efficacité l'attentat suicide. Il est à peu près imparable, surtout quand il est pratiqué à la Tamoul, c'est-à-dire avec une infrastructure. Les attentats sont longuement préparés. Celui ou celle, je dis celle parce que 50% des attentats sont faits par des jeunes femmes, et celui ou celle qui va commettre l'attentat ne va pas le commettre tout seul, comme chez, par exemple, les Palestiniens. Il est véritablement porté par un groupe qui a étudié le moment où on va frapper, le lieu où on va frapper, a fait toutes les reconnaissances nécessaires et le porte là. Les attentats sont plus ciblés, ça ne les empêche pas d'être plus meurtriers encore. Donc voilà ce que je peux dire sur l'attentat suicide. L'attentat du 11 septembre, s'il n'avait pas été suicide, n'aurait pas marché. Enfin, en ce qui concerne la politique française, personnellement, je ne m'en occupe pas. Le conseiller auprès du Centre d'analyse des prévisions, ça veut dire qu'on donne son avis sur des histoires de politique étrangère et pas sur ce que la France en fait. Car d'une façon générale, ce que je peux dire, c'est que les conseillers parlent et ne sont pratiquement jamais écoutés.
Oui, monsieur. Est-ce que vous n'avez pas évacué un peu facilement le problème moral, tant du point de vue du terroriste que du point de vue des spectateurs que nous sommes? Est-ce que vous faites la différence entre ceux qui tuent par volonté politique et sadique de tuer et ceux qui tuent par nécessité tragique d'autodéfense?
Moi, j'ai évacué autant que faire se peut le problème moral parce que d'une façon générale, on ne parle que de ça. Donc j'ai voulu resituer un phénomène qui est un phénomène de violence, un phénomène de guerre avec des buts politiques. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, je préfère l'attentat ciblé à l'attentat aveugle. À titre personnel, je pense que l'utilisation du terrorisme doit être intelligente. Je peux vous donner un exemple. Il me semble que l'intifada qui se déroule aurait eu davantage de soutien international, et pas seulement international, si Hamas et le djihad islamique et les autres mouvements qui le pratiquent s'étaient contentés de frapper les territoires occupés et les colons. Et que le fait de transporter la guerre en Israël proprement dit a amené la partie, au fond, pacifique, ou pour la paix, qui représentait pratiquement la moitié du pays il n'y a pas très longtemps, par souci de sécurité, vers la droite et vers le Likoud. Bon, c'est ce que j'appelle être contre-productif. Donc, dans ce domaine-là, c'est moins la morale que l'efficacité politique qui m'intéresse. Ceci dit, il n'y a pas que l'autodéfense, il y a le fait que, parfois, il faut agir, dans la mesure où il n'y a pas d'autre moyen de se montrer. Et je fais, bien sûr, des différences de mouvement à mouvement. Il n'y a pas de jugement qu'on peut porter de façon globale. Et on va tomber dans le débat de, voilà, ils font ça, et alors que font les Israéliens, etc., etc. Je trouve que c'est un débat qui n'est pas très intéressant. Ils sont en guerre, il y a une inégalité dans ce combat, et ce qui compte, c'est intelligemment, qui fait avancer sa cause et, en fin de compte, au bout d'un certain nombre d'années, qui empoche la mise. C'est ça qui compte en politique. Ce n'est pas juste un jeu à somme nulle, c'est une partie de bras de fer où il faut que le cerveau accompagne le muscle.
Vous avez décrit, en quelque sorte, une grande manœuvre militaire de la part des États-Unis pour prendre position en Irak, qui est une position centrale au niveau du monde musulman. Ceci ne va pas s'arrêter là. Il est vraisemblable, enfin, qu'en pensez-vous? Il va falloir, d'une certaine façon, dominer ou amoindrir le pouvoir potentiel du monde musulman. Sinon, on ne pourrait pas comprendre pourquoi tout ce tapage sur les armes, où très vite on a compris qu'il se passait autre chose.
Oui. Bon, vous savez, affaiblir le monde musulman, n'exagérons pas, il est déjà faible. Est-ce qu'il y a un État vraiment puissant dans le monde musulman? Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent à la Chine? Non. Donc, le but des Américains dans cette affaire, en tout cas, disons, des faucons du Pentagone, leur but, c'est se trouver à l'épicentre du monde arabe en dominant l'Irak et en le transformant en un régime à vocation démocratique et évidemment non hostile aux États-Unis, peser sur la Syrie pour que cela cesse toute espèce d'aide au Hezbollah, au Hamas, au djihad, etc., et à contraindre les Iraniens à ne pas devenir nucléaires. Nous allons voir dans les prochains mois ce qui va se passer à cet égard. très probablement, si les Américains ne parviennent pas à pousser à l'inspection des sites, ils vont se décider à les bombarder. Voilà, c'est ça à quoi ça va aboutir, à mon sens.
Monsieur, oui, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez des actions du Front Zapatiste au Mexique.
Je pense que le Front Zapatiste, grâce au sous-commandant Marcos, très vite compris que la phase de la violence armée était terminée au lendemain de la guerre froide et qu'il fallait passer à autre chose, c'est-à-dire à la propagande. Et cette propagande, je trouve qu'ils l'ont très bien faite pour défendre le sort des Indiens marginalisés de l'extrême sud du Mexique. Donc je pense que d'une façon générale, ils ont obtenu bien davantage que de nombreuses guérillas qui se sont enfoncées dans des combats sans issue et où ils ont finalement perdu.
Voilà. Merci Gérard Chalian.